ma come una
comprends subtil quand tu dis que la police c'est des chiens. Après avoir vu son frère violemment arrêté par les tiens pour quelques grammes. Le shit n'en plus jamais la loi des trams. Si l'enfant violé ou bombe dans les métros ou dans les trams. Mais flic, quand tu nous agresses verbalement, sans coup de poing, sans raison, tu nous cherches généralement. Sans motif, voilà, on voit rien que derrière les fans que tu envoies. T'attends qu'une chose, c'est que l'un nous perde son sang-froid. Et flic, comprends que ton air supérieur à glace. J'ai la haine quand je vois un frère à moi qui s'est fait ta base.
I'm dangerous, dangerous, dangerous.
Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon? Car tout porte à croire que les tiégards ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au départ, à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais le choix.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Encore pire, si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer. Est-ce que je demande ma liberté me soit restituée?
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit ont dû s'échapper de la prison.
Je dois m'évader, ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible.
Tout démonter, tout brûler.
Sortez les briquettes, les briquettes.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Salut.
Salut.
Salut, salut.
Alors, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Murs ont des oreilles sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Les Murs ont des oreilles, c'est une émission contre la tôle et contre le monde qui va avec. Et ce soir, on est trois à faire cette émission. Et c'est l'émission du mercredi 17 avril 2013. Du coup, alors dans cette émission, on va parler de différentes choses. On va parler de choses pas très drôles, notamment on va parler de plusieurs procès. Donc le procès de Laurent qui s'est tenu lundi matin à Grenoble et le procès de... cinq personnes qui se tient en ce moment même aux assises de Lyon et cinq personnes qui sont accusées de complicité dans une évasion un peu spectaculaire. Et on va aussi parler de pas mal de brèves. On va parler d'une évasion, on va parler de d'une mort suspecte, comme on dit, en prison, et puis de plein d'autres brèves liées à l'actualité carcérale. Et on commence donc tout de suite par parler du procès de Laurent.
Alors on va peut-être repréciser un peu deux, trois trucs. Les faits pour lesquels Laurent y passait en procès, ils se sont déroulés en 2011 à la maison d'arrêt de Vars. Donc à l'époque, le Daubé, donc le journal local tout pourri, en avait parlé en qualifiant les faits de prise d'otage. Et en fait, ce qui s'était passé... donc eux, ils avaient parlé de prise d'otage, ce qui n'est pas très étonnant parce que en général, on se fie pas trop à la manière dont ils racontent les choses. Et puis, c'était une manière, comme à leur habitude, de faire passer les prisonniers pour des espèces de monstres effrayants et les surveillants pour des pauvres victimes. En fait, ce qui s'était passé, c'est que Laurent, donc, qui était incarcéré à Vars, avait l'intention de se suicider et qu'il avait accumulé un certain nombre de médicaments dans sa cellule. Parce qu'il voulait les prendre donc pour se suicider. Et en fait, lors d'une promenade, sa cellule a été fouillée, tous ses médicaments ont été pris et il a voulu les récupérer. Donc il est allé trouver les gradés, il a demandé à se faire amener à Luxa, donc c'est le service médical qui est présent en prison. Et là-bas, il a menacé un surveillant pour qu'il lui redonne les cachets qu'il lui avait pris, en lui disant « je veux pas te faire de mal, je veux simplement récupérer ce que vous avez pris dans ma cellule tout à l'heure ». Et il a pris les cachets les uns après les autres, après quoi il a perdu connaissance et il a été hospitalisé. Suite à ça, il a été transféré et il a été maintenu après ça en isolement en permanence, donc depuis 2 ans. Transféré d'établissement pénitentiaire de l'un à l'autre et en vivant des conditions d'incarcération assez difficiles. Donc on pourra revenir un peu plus en détail là-dessus. Et donc hier, parce qu'en fait on enregistre un peu en avance cette émission, c'était lundi 15. Avril, il y avait donc au tribunal de Grenoble le procès de Laurent donc pour ces faits auxquels on a assisté et on y a assisté parce qu'on voulait le soutenir face à l'administration pénitentiaire dans cette histoire-là et aussi parce que depuis cette histoire il a envoyé pas mal de lettres, notamment au Muron des Oreilles, pour raconter un peu comment ça se passait, son enfermement, et comment lui se battait à son niveau par rapport à ce qu'il vit en prison, et qu'on voulait soutenir cette position-là. Et donc on va raconter un peu comment ça s'est passé, ce procès très expéditif.
Ouais, du coup, ce qu'il faut peut-être préciser, donc, c'est qu'effectivement, on a déjà beaucoup parlé de Laurent dans cette émission parce qu'on est en contact avec lui depuis un moment et que aussi pourquoi on est en contact avec lui, c'est que du coup depuis ce qui est qualifié comme une prise d'otage par l'administration pénitentiaire il y a 2 ans là, il s'en prend vraiment plein la gueule et que du coup là en 2 ans il a fait peut-être 7 ou 8 différentes tôles, il est transféré hyper souvent, il a fait un séjour à l'UMD de Montfavet.
Peut-être on peut préciser, donc l'UMD c'est Unité pour Malades Difficiles, c'est un espèce de mélange entre un hôpital psychiatrique et une prison où on incarcère des personnes qui sont considérées entre guillemets comme dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres, et donc c'est des conditions d'incarcération qui sont super difficiles.
Depuis tout ce temps-là, il est donc placé en isolement, comme tu l'as dit, ce qui veut dire que c'est il n'a pas le droit au parloir, il n'a pas le droit, souvent son courrier il est censuré, il n'a pas le droit de suivre la formation qu'il avait commencé à suivre il y a un moment, et tout ça en étant donc déplacé hyper souvent et en étant assez souvent maltraité par les maltons, envoyé au mitard et tout ça. Et donc, même là récemment il a été classé comme DPS, donc détenu particulièrement signalé. On en avait déjà parlé en fait concernant une histoire qui s'était passée à Bourg-en-Bresse, où le maton qui était de garde ce soir-là n'avait pas voulu le faire remonter de promenade à 16h comme c'était prévu. Du coup, il avait dû attendre jusqu'à 18h. Et puis du coup, quand il s'en était plein, il s'était retrouvé avec une fouille de cellules. Et du coup, quelques jours après, il était rentré du tribunal de Grenoble et les matons l'avaient fait chier pour la ceinture qu'il portait toujours avec lui, comme quoi il la portait pas avec lui à ce moment-là, et du coup là il s'était pris la tête avec le maton et depuis il est considéré comme DPS, donc détenu particulièrement signalé.
Peut-être je vais préciser quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Quand on est en isolement, c'est des conditions d'incarcération qui sont particulièrement difficiles. Ça a été considéré comme de la torture blanche. Mais normalement, entre guillemets, s'il peut y avoir quoi que ce soit de normal dans le fait d'être incarcéré en isolement, on a quand même la possibilité d'avoir des parloirs et on n'a pas forcément de censure quant à son courrier. Donc le fait que lui, il n'ait pas accès à ça, c'est des sanctions et des brimades et des pressions sur lui encore en plus qui s'ajoutent à l'isolement. Ça ne fait pas partie en fait d'une mesure d'isolement classique.
Voilà, et du coup, donc c'est un peu dans ces conditions-là que se tenait le procès d'hier, qui du coup c'était un peu le procès de, de Laurent contre la paix, quoi, contre l'administration pénitentiaire. Et alors c'était un, bah, comme souvent dans les procès, quoi, une belle pièce de théâtre où il y avait un peu des rôles préétablis et que voilà, les gens restaient dans leur rôle. Alors il y avait donc d'un côté il y avait l'institution judiciaire, donc gardienne de l'ordre moral, représentée par trois fringants représentants. Donc il y avait trois juges qui étaient là, un qui dormait, un qui servait à rien et un qui était particulièrement offensif et qui semblait déjà convaincu de la culpabilité de Laurent, au point qu'on peut même se demander à quoi servait vraiment ce procès, puisque visiblement tout était déjà décidé à l'avance, quoi. Et alors il y a voilà quelques citations qu'a fait ce juge-là et qui nous fait nous dire que en fait voilà c'était déjà plié pour Laurent. Alors déjà Laurent rentre dans la salle, il est même pas encore rentré dans la salle que déjà le juge dit faudrait voir à refermer à clé vu la personnalité de l'accusé, donc ce qui laisse bien comprendre son opinion de Laurent. Il fait bien lors de son analyse de son casier judiciaire, là il relève effectivement qu'il y a beaucoup de violences qui sont dans son casier judiciaire. Il dit à Laurent, vous avez une image négative, vous avez un caractère rebelle. Alors voilà, un caractère rebelle, ça suffit pour avoir une image négative. Et à un moment, il y a une espèce d'échange là où du coup, il demande à Laurent, mais est-ce que vous comprenez que ce que vous avez fait, c'est inadmissible? Et du coup, Laurent commence à répondre, ben j'agis. Et là, le juge lui coupe la parole et lui disant, oui, vous agissez, vous réfléchissez après. Et bien, c'est à ça que va servir votre incarcération, à vous apprendre à réfléchir avant d'agir. Du coup, voilà, ça pose un peu l'ambiance générale de ce procès-là.
Et puis ça montre aussi que quand tu arrives face à un juge, en fait c'est ton casier judiciaire qui va avant tout servir à ce que le juge se fasse son avis sur toi et qu'en fait ce que tu peux dire ou pas, c'est complètement conditionné par le casier en fait.
Et que du coup en opposition à ça, il y a une espèce de glorification au contraire du maton et du personnel pénitentiaire où on nous dit que le maton qui a été pris en otage selon leurs termes, il a eu tellement de sang-froid qu'il a même été récompensé par une médaille, quoi. Du coup ça nous ferait presque sourire si c'était pas glauque. Le maton qui est d'ailleurs tellement courageux qu'il est même pas présent dans la salle.
Même s'il l'était, c'est pas une preuve de courage de venir à un procès comme ça.
Oui, oui. Et du coup, du coup, tout ça pour. Donc, on insiste sur le sang-froid du maton et que limite, c'est grâce à lui, en fait, si tout s'est bien passé pour eux, quoi, pour l'administration pénitentiaire. Alors qu'en fait, c'est juste Laurent qui a fait en sorte de faire son truc sans blesser personne et qu'en fait, lui, juste ce qu'il voulait, c'était faire une tentative de suicide et pas tuer des gens ou prendre des gens en otage ou je sais pas quoi, foutre la tôle à feu et à sang. Et du coup, aussi les avocats des parties civiles et le procureur qui insistent à fond sur... qui en rajoutent, quoi, sur la violence que ça a été, ce truc-là, qui n'a pas du tout été violent, et qui disent que, du coup, le maton, il a été traumatisé. En fait, il a eu un jour d'arrêt de travail, quoi, donc ce qui est quand même pas grand-chose. Mais là, on insiste sur comment toute sa vie est foutue en l'air, et que même si la scène n'a duré qu'une demi-heure, c'était quand même vraiment une longue demi-heure et tout ça. Donc en parlant de gens qui passent des journées enfermées, et pour qui, je pense, les minutes sont quand même très longues, c'est quand même un peu ridicule de dire ça, quoi. Mais bon, du coup, dans cette ambiance un peu glauque et pas franchement à son avantage, Laurent, il a quand même réussi à essayer de prendre un peu de place. Il n'a pas hésité à intervenir, à remballer le juge des fois. À un moment, le juge était en train de dire un truc, et puis là, Laurent dit « Non, mais là, en fait, vous parlez en convaincu, quoi. » Du coup, voilà ce qu'on avait déjà noté, que le juge était déjà convaincu de la culpabilité de Laurent. Laurent, à des moments, il a dit... Il remballe le juge en disant « Mais en fait, vous me demandez de parler, vous me coupez la parole, du coup, écoutez ce que j'ai à dire. » Et puis, il dénonce aussi la connivence entre la justice et la paix. Il dit « Vous protégez votre administration pénitentiaire de tous les faits. Nous, on s'en prend plein la gueule et eux, ils n'ont jamais rien. » Et il dit aussi « Ce que je vis depuis 2 ans, c'est un enfer, c'est une séquestration de la paix. On essaye de me faire passer pour un monstre. » Et du coup, là, il renverse aussi ce truc de dire « C'est pas lui qui a pris quelqu'un en otage, en fait, c'est lui qui est pris en otage au quotidien, tous les jours, depuis des années, quoi. » Du coup, donc ça, c'était l'attitude de Laurent. L'attitude de son avocat, ça a été un peu plus de faire profil bas, quoi, pour essayer d'amadouer le juge, mais tout en quand même dénonçant l'acharnement de l'administration pénitentiaire contre Laurent. Et notamment, donc, il revient sur son statut de DBS, il dénonce le maintien abusif et prolongé en isolement de Laurent avec toutes les privations de droits qu'on a dit. Et du coup, pour lui, il déclare qu'en fait, c'est l'AP qui prépare ce type d'incident. Ce qui veut bien dire qu'en fait, effectivement, quand une personne subit ça, bah, à un moment, elle a envie d'en finir d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui explique ce qui s'est passé. Et du coup, au final, donc, après 4 minutes de délibérer, donc là, c'est vraiment le foutage de gueule de les juges qui se retirent, qui délibèrent pendant 4 minutes et qui reviennent et qui, en fait, appliquent la réquisition de la procureure générale sans se poser de questions. Du coup, 18 mois de tôle et 1500 euros d'amende. Du coup, à ce moment-là, Laurent, il explose, quoi. Il dit, bah, en fait, la thune, il l'aura jamais. Et la prochaine fois, le maton, je le bute, quoi. Un truc de colère qu'on comprend et qu'on partage, de se dire, bah voilà, en fait, si c'est pour s'en prendre plein la gueule comme ça et pour être méprisé par les juges de cette manière, bah voilà, il est juste hyper vénère. Du coup, on espère que ça s'est bien passé pour lui et le retour en détention. Et on lui souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et on voulait revenir sur plusieurs éléments autour de ce procès et de ce qui a été qualifié comme une prise d'otage et qui était une tentative de suicide, pour expliquer un peu pourquoi... les gens en prison peuvent vouloir faire des tentatives de suicide.
Ouais, c'est vrai que sur ce procès, ce qui était hyper choquant aussi, c'est qu'à aucun moment donné, la question du suicide a été posée. C'est une réalité qui est présente en fait, au milieu carcéral, le suicide, où, en sachant qu'en France, il y a environ un suicide tous les 3 jours, donc ça fait environ 120 suicides par année. Donc ça, c'est les suicides effectifs, les suicides où mort s'en suivent. Et qu'après, dans tous ces cas-là, on ne sait jamais quel est un suicide. C'est quoi un suicide? C'est quoi une mort suspecte? C'est quoi les situations qui poussent au suicide ou qui poussent à bout? Donc on peut aussi se questionner sur le choix en fait qu'ont les détenus en fait dans ces circonstances-là. Et c'est quoi en fait faire un choix quand on est enfermé? Ou en vrai, j'ai pas l'impression que les gens ils choisissent le suicide, ils choisissent de fuir cette situation et que ben c'est un des moyens, mais c'est pas forcément un choix, un vrai choix dans le sens où il est fait sous contrainte. Et qu'après, il y a aussi énormément de tentatives de suicide en prison. Au niveau des statistiques, je crois que ça équivaut à 3 par jour. Quoi. C'est énorme, c'est hallucinant. Et que oui, c'est une vraie réalité, les suicides en prison et les tentatives de suicide. Et que dans ce procès, c'est vrai que c'était assez fou, comme la justice ne considère ce cas-là en étant complètement isolé dans le contexte. Et du contexte carcéral et du contexte des quartiers d'isolement et de tout ce qui pousse les gens complètement à bout quand ils sont enfermés et que tout est fait pour les faire craquer, quoi.
Par rapport à la question de la violence aussi, le côté des surveillants voulait montrer à quel point c'était traumatisant pour eux d'être face à des personnes qui se rebellaient contre eux ou qui s'en prenaient à eux. Mais en fait, la réalité... quand on est prisonnier, c'est que en permanence, au quotidien, on se prend des violences de l'institution pénitentiaire parce qu'on est obligé dans tout ce qu'on fait et que péter un plomb, c'est juste une conséquence logique face à la violence de l'administration pénitentiaire. Et du coup, c'est vrai que lui, il dit j'ai essayé de faire au mieux pour ceux qui étaient autour à ce moment-là, en leur disant « T'inquiète pas, tu vas rentrer chez toi ce soir, tu verras tes proches, je vais pas te faire de mal. » En fait, ça aurait aussi pu arriver que ça se passe plus mal, et en fait, on l'aurait compris aussi.
On voulait aussi profiter de ce moment-là et de ce procès-là pour... peut-être revenir un peu plus sur ce truc de DPS, là, de détenus particulièrement signalés. Que du coup, c'est un truc qui a été mis en place au moment de la suppression des QHS, les quartiers de haute sécurité. Et du coup, c'est un espèce de truc de vous voyez, toutes ces espèces de trucs où on fait semblant d'humaniser les choses. Et en fait, bon, c'est toujours les mêmes logiques qui sont à l'œuvre, quoi. En fait, c'est vraiment le but, c'est vraiment de comment briser les individus et comment les isoler le plus possible. Du coup, ce statut... alors, en plus, dans le cas de Laurent, c'est encore plus hypocrite qu'en fait, de fait, il était traité comme un DPS depuis 2 ans. Et en fait, il est vraiment considéré légalement comme DPS que depuis le mois de janvier. Ce qui, du coup, je pense... Je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose par rapport à avant, vu que, de fait, il avait déjà aucun droit et pas de parloir et pas de visite et pas de courrier et tout ça. Mais du coup, ouais, pour préciser aussi que, en fait, c'est ce truc de... qui est ressorti aussi pendant le procès, que, en fait, l'administration pénitentiaire, elle a très bien les moyens de punir les gens en interne, quoi. Que là, le procès, c'était juste en rajouter encore une couche, mais que de fait, Laurent, il le payait déjà hyper cher, son acte qu'il a commis il y a 2 ans, et que du coup, ouais, c'est aussi des punitions en interne de l'AP qui dispose de toute une batterie possible à sa disposition, quoi.
Ouais, qu'il y a déjà des sanctions internes, et puis que le fait qu'il y ait un procès, ça vient rajouter une peine supplémentaire à sa peine initiale qui est déjà ce qu'elle est, et du coup, c'est comme ne jamais voir le bout de cet enfer, en fait.
C'est vrai qu'au moment, des faits, Laurent, il était libérable en 2027, il me semble. Et que du coup, ça laisse... Enfin, voilà la perspective d'avenir que laisse une date de libération aussi éloignée, quoi.
Et ça, c'est aussi une réalité qui est assez fréquente, en fait. Pour beaucoup de gens, ça se passe comme ça, de se retrouver à l'intérieur pour des faits, pour une peine donnée. Et puis, en fait, en étant dedans, le moindre petit truc peut conduire à un passage au tribunal. Parfois, c'est pour des insultes envers surveillants, qu'il y a des gens qui se retrouvent à passer au tribunal et à prendre des peines supplémentaires du ferme, voire des amendes en plus. Ça donne vraiment l'impression qu'on sait quand on rentre, mais en fait, on peut jamais savoir quand est-ce qu'on sort. Voilà, et puis c'est un bon petit business aussi pour les membres de l'administration pénitentiaire qui se portent partie civile et qui peuvent toucher au passage des indemnités qui leur arrondissent leur fin de mois. C'est bien horrible comme fonctionnement.
Et donc, ouais, pour revenir aussi sur le statut de DPS, c'est vrai que à l'époque où il avait été mis en place, donc à la fin des QHS, c'était vraiment un moment où il y avait des luttes en fait dans les QHS qui étaient portées et par les prisonniers à l'intérieur et par tout un mouvement extérieur. Et que c'était une des choses là, qui ont été soi-disant abolies par le PS quand il est arrivé au pouvoir sous Mitterrand. Là. Et qu'en fait, ils ont simplement rebaptisé QI, donc quartier d'isolement, et c'était les mêmes infrastructures, avec les mêmes surveillants, avec exactement les mêmes conditions de détention, avec un statut de DPS en plus qui peut toucher des gens qui sont extérieurs au QI. Et donc c'est vraiment juste complètement... Et du coup, ça a permis de complètement pacifier cette lutte et qu'on voit que des années après, en fait, juste les conditions elles se sont dégradées. Et que c'est encore actuel, en fait. C'est une lutte qui est encore actuelle et que des gens portent encore à l'intérieur parce qu'ils les subissent quotidiennement, en fait, ces sanctions.
On peut redire, hein, donc l'isolement, c'est être seul 24 heures sur 24. C'est ne voir... comme être humain que des surveillants. C'est n'avoir accès à des activités qu'en étant seul et être aussi complètement restreint dans les activités qui sont possibles. Parfois, pour certaines personnes, c'est possible d'avoir des activités en tout petit groupe, mais c'est des choses qui demandent des aménagements, un accord de l'administration pénitentiaire, etc. Mais cette solitude, en fait, elle engendre des conséquences qui sont très graves et qui ont des répercussions sur le long terme, en fait. C'est véritablement une torture de faire vivre ça à quelqu'un.
Je sais qu'en tout cas, les nombreux témoignages qu'on a sur les personnes qui ont vécu des années d'isolement, c'était non seulement des répercussions psychologiques qui sont énormes, mais c'est aussi des répercussions physiques, comme genre la perte de la vision, où effectivement on est enfermé quotidiennement, du coup les yeux ils fonctionnent plus et on voit que on perd des facultés visuelles, les gens ils perdent les facultés de parler, ils savent plus parler vu qu'ils parlent jamais en fait, ou s'ils parlent c'est qu'avec des matons, donc ça laisse imaginer la conversation que c'est possible d'avoir avec un maton. Donc ça, en général, ça se rapporte à des conversations assez offensives. Donc c'est vraiment des vraies séquelles en fait qui sortent de ces périodes là en fait, de ces périodes d'isolement total.
Voilà, du coup, c'était un peu les choses qu'on avait envie de raconter par rapport au procès de Laurent. On va faire une petite pause musicale et après, on va parler d'un autre procès qui se passe cette fois-ci à Lyon.
On m'a toujours dit de pas attendre d'être sur écoute pour raccrocher. Pas encore adulte, j'avais déjà trop de choses à me reprocher. Pierre Alain, tu ne connaissais pas le mot business. J'étais déjà sur le chemin qui foire. Si tu foires, enfoiré. Est-ce comme ça que j'imaginais la vie, hein? Est-ce comme ça qu'on imaginait nos vies? Monsieur le juge, j'ai fait ce que tout le monde fait pour que ça fasse. J'ai juste marché sur les traces de ceux qui nous servaient d'exemple à suivre. Alors merde, c'est sa merde, j'ai pas appris la vie dans un livre. Mais dans cette rue où on se poignarde entre rivales, où le genre divise les clans, où même les grands crèvent la dalle. Deal vol, brille, alors s'il deal vaut la chandelle, pourquoi pas péter le secteur sans perdre de vue le ciel? Où ceux qui nous regardent admirent le bordel qu'on fait et qui peut nous en empêcher, même les saints rêvent de péché. Mais stop, stop, on n'a pas tous des parents riches pour nous repêcher. Faute de caillasse, faut être malin, faut être dur, faute de calme, petit lard. Vie dure trop tôt, et le trottoir pour trotter, se frotter. Au bitume coutume est fautée, immanquablement. Regarder la vie en face demande du courage ou beaucoup de rage. Être sous, être sage, être fou à un âge où de toute façon la partie est jouée. Trop tard pour déjouer les pièges que la vie tend à ceux qui veulent avec elle jouer, ouais. J'aimerais écrire des trucs gays, mais mon stylo pleure sans cesse. Mes façons de pleurer les vieux comme une triste messe. Monsieur le juge, j'ai fait ce que tout le monde fait pour que ça fasse. J'ai juste marché sur les traces de ceux qui nous servaient d'exemple à suivre. Alors merde si ça merde, j'ai pas appris la vie dans un livre. Monsieur le juge, j'ai fait ce que tout le monde fait pour que ça fasse. J'ai juste marché sur les traces de ceux qui nous servaient d'exemple à suivre. Alors merde si ça merde, j'ai pas appris la vie dans un livre. On n'a pas tous le même but dans la vie, hein. La vivre c'est déjà bien, mais survivre dans ce monde en dérive c'est encore mieux. Alors à chacun son jeu, à chacun ses atouts. Et si t'as l'oseille et ben t'as tout, tu tâteras le dernier Audi. On dit tu tâteras aussi la belle vie, mais si t'as rien, t'auras plus de frein et plus rien qui te retient. On veut tous des sous sans suer, des coups sans se tuer avant que la pauvreté nous envahisse. De ces fils, fils on défait, on glisse. On vit de vie, c'est d'eau fraîche, de la fraîche pour mes sauces et de l'eau pour éteindre les feux dans la fosse. Là c'est de jouer l'agneau dans une fable lougère, et où la morale est si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Monsieur le juge, j'ai fait ce que tout le monde fait pour que ça fasse. J'ai juste marché sur les traces de ceux qui nous servaient d'exemple à suivre. Alors merde si ça merde, j'ai pas appris la vie dans un livre. Monsieur le juge, j'ai fait ce que tout le monde fait pour que ça fasse. J'ai juste marché sur les traces de ceux qui nous servait d'exemple à suivre. Alors merde si ça merde, j'ai pas appris la vie dans un livre. Les générations ne sont plus sur les mêmes longueurs d'onde, hein. Les miens ont pour modèle des fous que plus personne ne gronde. Un grain de café, ça craint de taffer ou de cracher sur un billet vite fait. Moralité, chacun fait ce qui lui plaît.
Ce qui lui plaît,
non, plutôt ce qui lui rapporte. À quoi ça sert de gagner les clés vues, ici y a pas de porte. Ça préfère encore pipi au coin là-bas, ça rapporte plus en attendant d'avoir l'occasion de péter la poisse en mode versus. Donc risquer sa peau, se faire caler sans gloire, mourir en toute connaissance de cause, faute de vivre sans le savoir. Les lois sont mal faites, elles ne protègent plus ma graisse, bien plus que tous les pites élevées dans des caves de test. Monsieur le juge, j'ai fait ce que tout le monde fait pour que ça fasse. J'ai juste marché sur les traces de ceux qui nous servaient d'exemple à suivre. Alors merde si ça merde, j'ai pas appris la vie dans un livre. Monsieur le juge, monsieur le juge, quartier mineur, quartier majeur, quartier femme. Gardez le moral, gardez la flamme. À tous les détenus incarcérés, gardez la pêche,
gardez la pêche, gardez la pêche.
Voilà, alors on va reprendre. On voulait dire quelques mots d'un procès qui se déroule en ce moment à Lyon, donc aux assises, pendant 15 jours. En fait, les faits en question, ils se sont passés à la centrale de Moulins-Isère. Donc c'est soi-disant la centrale la plus sécurisée d'Europe. Et c'est des faits qui remontent à 2009. À cette époque-là, il y avait deux prisonniers, donc Omar Topelhadj et Christophe Kider, qui se sont évadés de cette centrale en prenant en otage deux matons et en faisant exploser les portes qui permettaient d'accéder au parloir, et ensuite en se faisant ouvrir les portes de l'enceinte de la centrale. Suite à ça, ils sont partis en cavale pendant 36 heures, puis ils ont été rattrapés par la police, qui n'a pas hésité à leur tirer dessus. Et à ce moment-là, il y a notamment Christophe Kider qui a reçu une balle dans le poumon. Donc, suite à ça, ils ont été réincarcérés et maintenus en isolement. Et le procès dont on va parler, c'est le procès de 5 personnes. Donc, c'est 2 prisonniers. Un autre prisonnier qui a été accusé d'être complice de cette évasion. Et 2 personnes qui venaient, donc 2 femmes qui venaient les voir au parloir, qui ont été accusées de leur avoir fourni les explosifs. Nécessaire à l'évasion. Du coup, il y a des comptes rendus des audiences de chaque jour de procès qui sont disponibles notamment sur le site de L'Envolée. Donc on rappelle, L'Envolée, c'est un journal anticarcéral qui paraît régulièrement pour relayer notamment des lettres de prisonniers. C'est possible donc de pouvoir avoir plus d'infos sur ce procès-là et de retrouver ces comptes rendus d'audience sur le site internet de L'Envolée. Donc c'est l'envoletoutattaché.net. Donc c'est un procès qui se déroule sous surveillance étroite, c'est-à-dire que notamment les enceintes du tribunal sont gardées par le GIPN, qu'il y a un déploiement très impressionnant des forces de police et qu'il y a des contrôles d'identité pour chaque personne à l'entrée de la salle de tribunal, que la salle est remplie de matons et de flics. Notamment, lors de ce procès, il y a 29 personnes qui se portent partie civile. Donc c'est un peu la totale, hein. Il y a notamment, évidemment, directeur de prison, matons, des membres de famille des matons, des syndicats de matons, bien évidemment, mais aussi des automobilistes qui se trouvaient sur le passage des évadés et qui racontent tous à quel point les pauvres, ils ont été traumatisés par la manière dont ils ont été de près ou de loin pris à partie lors de cette évasion. Et bien évidemment, ils se portent partie civile parce que chacun va essayer de toucher son petit pactole, n'est-ce pas ? Donc c'est décidément très courant lors des procès. Donc ce qui est utilisé à charge contre les prisonniers, entre autres lors de ce procès, c'est évidemment, comme d'habitude, les casiers judiciaires et les expertises et profils psychologiques qui sont utilisés à outrance contre les accusés, mais aussi notamment des écoutes téléphoniques diverses et aussi des entretiens de parloir qui étaient sous écoute, qui sont utilisés contre eux, et des déclarations qui ont été faites lors de garde à vue. Donc en fait, ce procès, c'est l'occasion pour les directeurs de prison, notamment, de parler en se faisant passer pour des victimes de comment ils ont été traumatisés, les pauvres, lors des quelques minutes au cours desquelles ils ont été pris en otage. En en faisant des tonnes sur les séquelles qu'ils ont eues après coup, les pauvres, en racontant les images de choc que ça leur a fait, les troubles du sommeil qu'ils ont eus après, des choses comme ça. Et c'est à mettre vraiment en parallèle avec le fait que pour les prisonniers qui passent un procès à ce moment-là, c'est aussi l'occasion de parler de la réalité de l'enfermement d'une manière générale et aussi de ce qu'ils vivent. Suite à ça. Et en fait, par exemple, les troubles du sommeil quand on est prisonnier, c'est quelque chose d'extrêmement courant. D'une part parce que l'enfermement, ça perturbe complètement le quotidien. Et aussi parce que quand on est prisonnier, c'est courant que les matons y passent en donnant des coups dans les portes pour soit perturber le sommeil comme une humiliation en plus, soit vérifier que les gens ne sont pas morts. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, à plusieurs moments, lors de ce procès, il raconte qu'est-ce que c'est que l'enfermement dans cette centrale et qu'est-ce que c'est que cette violence quotidienne de l'enfermement, notamment au travers de faits comme par exemple raconter que donc dans la cellule de Mitard, donc le Mitard c'est un des moyens de punition de l'administration pénitentiaire, le lit, le tabouret et la table des cellules de Mitard sont des moellons, donc ça laisse imaginer en fait qu'est-ce que c'est que jour après jour de dormir sur des moellons. À un moment donné, le directeur de la prison, donc lui il essaye évidemment de faire croire que cette prison est... tip-top, que là-bas, tout le monde est aux petits soins pour les prisonniers, pour qu'ils passent au mieux leur peine et qu'ils puissent se réinsérer au mieux lors de leur sortie. Donc ça fait quand même bien rire d'entendre des conneries aussi énormes que ça. Il raconte même qu'il y aurait eu le projet de créer une piste d'athlétisme dans la centrale. Donc en retour à ce genre de gros mensonges, il y a un des prisonniers qui raconte que, par exemple, dans la centrale de Moulins, il n'y a pas d'UVF. Ça veut dire... donc les UVF, c'est ces espèces de carottes, en fait, qui sont agitées sous le nez des prisonniers et de leurs proches en permanence parce que c'est des parloirs aménagés pendant entre 6h et 72h, mais il y en a 4 par an à peu près, et qui permettent de retrouver un peu une proximité quand on est enfermé avec les gens qui nous sont proches. Et donc, ils racontent par exemple que là-bas, ça n'existe pas, mais que les matons avaient une tolérance pour le fait que des proches en visite lors de parloir puissent amener une tente ou des draps ou des serviettes qui pouvaient accrocher aux fenêtres des cellules de parloir, des box de parloir, pour pouvoir s'aménager un peu d'intimité. Donc ça laisse imaginer à quel point c'est juste complètement humiliant, complètement horrible, cette réalité-là. Et qu'à plusieurs reprises au cours de ce procès, les prisonniers saisissent cette occasion en fait, pour raconter concrètement qu'est-ce que c'est que cet enfermement. Il y a eu pas mal d'informations qui a été faites autour de ça pour pouvoir être solidaire des prisonniers qui passent en procès à ce moment-là, et aussi donc les deux femmes en fait qui sont accusées de complicité et d'avoir fourni les explosifs depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis 4 ans, elles sont en détention préventive, donc en attente du procès aussi et de savoir qu'est-ce qui va se passer pour elles par la suite. Et on leur apporte notre solidarité et notre soutien. Et vous pouvez trouver plus d'infos à ce sujet-là, notamment sur le site d'information Rebellion. Donc c'est rebellyon.info. Donc le site d'information alternative lyonnais. Voilà, on va passer à la suite.
Ouais, du coup, on voulait juste faire des petits points, parce que du coup, là, on a parlé de deux procès différents et qui nous évoquent des choses qu'on retrouve assez souvent dans plein de procès, et notamment dans des procès où c'est des prisonniers qui sont impliqués. Du coup, les choses qu'on retrouve, c'est cette dimension de classe entre les personnes détenues et les magistrats et les juges et tout ça, qui font clairement pas partie du même monde. Et notamment que les magistrats, en fait, ils n'ont juste aucune idée de c'est quoi la réalité d'une personne en détention. Et du coup, ça fait des trucs où ça fait quand même plaisir, des fois, de voir poser sur la table publiquement ces trucs de réalité carcérale, là, de qu'est-ce que ça veut dire d'être enfermé 24 heures sur 24 ou 23 heures sur 24, dans une prison. Et que du coup, que les gens, que les juges et les gens qui envoient des gens en prison, en fait, se rendent compte de qu'est-ce qu'ils font, en fait, même si concrètement, ça ne les empêche pas de le faire. Et aussi, le truc qui est de plus en plus fort là, dans la justice française, c'est la dimension psychologisante, le fait de s'intéresser non pas aux faits qui ont été commis, mais au parcours. Alors à Lyon, ils disent toujours, au procès de Lyon, ils disent toujours le CV des personnes. Donc en fait, leur CV, en fait, c'est leur parcours judiciaire, les problèmes relationnels qu'ils ont pu avoir dans leur vie, les mauvaises notes qu'ils avaient à l'école et tout ça. Et qu'en fait, c'est bien la personnalité qui est jugée et pas... pas les faits. Et en plus de ça, c'est des personnalités pré-mâchées, quoi, que on fait en sorte que les gens rentrent dans les cases. Alors il y a des cases comme ça qui sont préétablies. Il y a l'intellectuel machiavélique, le monstre sanguinaire, la femme aveuglée par l'amour, et que on fait en sorte que tout ce que les gens vont dire, ça les oriente soit dans une case soit dans une autre, quoi. Et même ce truc de personnalité criminelle, ça en devient presque un truc de maladie, quoi. Et que notamment quand on demande à un des psys qui est interrogé de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces gens n'aient plus envie de s'évader. La réponse simple, ce serait arrêter de les enfermer. Et lui dit non, il faut leur faire une psychothérapie parce que ça se soigne les envies d'évasion, quoi. Des gens qui n'ont pas de latch, comme on dit. et du coup, ce qui est jugé, c'est vraiment l'esprit rebelle, quoi. C'est le fait de ne pas accepter de se conformer à des conditions qui sont dans l'absolu insupportables.
Et pas que l'esprit, hein, parce que là, concrètement, c'est aussi les actes qui vont avec.
Ouais, du coup, de se rebeller contre ce qui nous imposait, c'est ça qui est condamné. Et du coup, quand tu te fais choper, dans les deux cas, soit parce que ta tentative de suicide, elle va marcher, soit parce que tu t'es évadé et tu t'es refait choper, là, on te le fait bien payer doublement, quoi. En fait, t'as essayé, t'as pas réussi, tu vas t'en prendre doublement dans la gueule. Et que c'est aussi un truc de pas avoir le choix, en fait, de sa vie ou de sa mort, quoi. En fait, c'est pas toi qui décides dans quelles conditions tu vis et dans quelles conditions tu meurs. C'est la paix et la justice qui va décider pour toi. Et du coup, tout ça dans la grande solidarité entre les différents corps de métier et de représentants de l'État. Du coup, les flics, les matons, les juges, qui sont tous très potes. Et que, du coup, il y a un sentiment corporatiste hyper fort, quoi, entre tous ces représentants de l'État. Et un truc de justification de la violence de l'État par rapport à d'autres formes de violence. Que, en fait, c'est normal que des matons tirent sur des détenus qui essayent de s'évader. C'est normal que quand ils se fassent choper, ils se fassent tirer dessus à bout portant par un flic alors qu'ils sont, désarmés. Mais par contre, c'est pas normal que des gens prennent des otages sans verser une goutte de sang pour sortir d'une prison ou pour faire une tentative de suicide. Et du coup, quand tu fais ça, tu te prends la vengeance de l'État bien dans la gueule. Et tout ça, c'est très normal et très légitime, quoi, dans leur logique. Aussi, un autre truc que ça nous évoquait, ces deux histoires de procès, c'est... que voilà, les procès, c'est des moments pas forcément évidents, que dans lesquels on n'a pas de billes, quoi, que c'est pas nous qui maîtrisons ce qui se passe, que c'est des grandes scènes de théâtre où les rôles sont déjà établis à l'avance, et que généralement on sait à l'avance comment ça va se passer et qu'est-ce que ça va donner, et du coup c'est toujours des trucs où c'est un peu compliqué de se dire, bah, en fait, qu'est-ce qu'on a à y faire, quoi, dans ces procès-là, qu'est-ce qu'on a à y apporter, qu'est-ce qu'on a à y porter. Du coup, ben voilà, là on a parlé de deux exemples de procès où les gens, ils avaient des stratégies et des défenses et des attitudes différentes, et que voilà, c'est des choses qui nous posent un peu question. Du coup, là, est-ce que c'est possible de porter des actes politiques dans un procès? Est-ce que c'est plus stratégique à des moments de jouer profil bas en espérant diminuer la peine? On a vu que dans le cas de Laurent, bah, ça n'a pas marché de faire ça. En même temps, là, dans le procès de Lyon, apparemment, ce truc d'avoir quand même une stratégie d'attaque un peu offensive, ça fait qu'à un moment, il y a un rapport de force qui se renverse, même si on sait bien qu'au final, la peine qui va être prononcée ne sera probablement pas du tout clémente. Donc voilà, c'était des choses comme ça qu'on avait envie d'évoquer sur des questionnements par rapport à qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, dans ces procès-là, où on n'a a priori rien à gagner. Et voilà, c'est des choses qui ne nous parlent pas du tout, qui ne nous représentent pas, et qu'on ne sait pas forcément comment réagir face à ça, quoi.
Après, ça fait aussi... Bon, c'est vrai que ces deux procès, ça donne vraiment l'impression que les peines, elles sont connues d'avance, en fait, et que le procès, il soit passé ou pas, en fait, qu'il soit là ou pas. Ça change rien, en fait, à la décision du juge. Mais qu'en même temps, moi, ça me fait aussi un truc où, en procès, c'est un moment aussi où, suivant où on se comporte ou quoi, c'est aussi quelque chose de rassurant pour soi-même, en fait, où j'ai l'impression que, des fois, d'être fidèle à nos idées, d'être fidèle à une certaine rupture qu'on a avec l'État, c'est aussi quelque chose qui peut être renforçant, même si ça va ni influencer la peine en bien ou en pire ou en quoi que ce soit, en fait. J'ai l'impression que, ouais, sur le banc ou dans le box, ben, ça permet d'être clair et lucide sur ce qui se passe, et ça permet de ne pas s'embourber aussi dans des espèces de rôles à moitié pacificateurs, à moitié victimisants, qui sont souvent un peu plus difficiles à tenir et qui souvent laissent aussi présager des stratégies face à la justice qui sont pas forcément si claires que ça, quoi. Et qu'après, c'est pas pour dire il faut faire ci ou il faut faire ça. J'ai l'impression que c'est vraiment complètement... En même temps, c'est difficile de dire que c'est un choix individuel alors que c'est un contexte général, quoi. Mais c'est complexe, en fait, comme situation, en fait, les procès. Et qu'on est dépassé... Enfin, le but, tout est fait pour qu'on soit dépassé par ce qui se passe, en fait. Et qu'on n'ait plus vraiment le choix, en fait, de quoi faire.
On va peut-être enchaîner parce que l'heure tourne assez vite. On voulait revenir sur quelque chose dont on a parlé le mois dernier, je crois. En fait, le mois dernier, on a parlé de quelqu'un qui était mort à la maison d'arrêt de Corba, donc Sofiane, en disant que c'est quelqu'un qui avait été... qui s'était suicidé, qui avait été retrouvé pendu. En fait, il s'avère que... Il y a eu récemment un rassemblement, notamment initié par ses proches. Il s'avère en fait que quand ses proches ont pu voir son corps, il était couvert de marques de coups, et que il y a assez peu, que ça paraît très peu crédible en fait l'hypothèse comme quoi il se serait suicidé, et que du coup il y a une enquête qui serait en cours pour élucider de manière un peu plus claire les circonstances de sa mort. Et ce qu'on voulait dire, bon, bah déjà d'une part, c'est que là c'est des nouvelles qui sont toutes récentes, et donc on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet-là, mais on en dira plus dès qu'on aura plus d'informations. On voulait aussi revenir là-dessus parce qu'il s'avère que Corba, en fait, c'est un établissement pénitentiaire qui est assez récent et qui a été mis un peu comme un modèle, comme quoi il était moderne, que c'était des conditions d'incarcération qui étaient beaucoup plus agréables, entre guillemets. Il s'avère qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès, en fait, dans cette prison, qu'il s'agisse de suicide. Bon, alors après, on a vu que la notion de suicide en prison, c'est quand même un peu particulier parce que, d'une part, c'est très souvent les conditions même de l'enfermement qui amènent à se suicider. Et donc des suicides, des morts suspectes. Donc ça veut, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Une mort suspecte, ça peut être notamment, comme on en a parlé la dernière fois, quelqu'un qui a un problème de santé gravissime et que les matons laissent crever comme un chien, comme ça s'est passé à Bourg-en-Bresse, comme ça s'est passé à La Santé, comme ça se passe assez souvent dans beaucoup d'établissements pénitentiaires, malheureusement. Et ça peut être aussi des assassinats. À nouveau, là, malheureusement, les exemples, il y en a un paquet. Et c'est à nouveau des situations qui sont révoltantes et qu'on n'a pas envie ni de passer sous silence, ni d'accepter. Voilà, donc on va faire en sorte d'avoir un peu plus d'informations à ce sujet-là et il ne faut pas hésiter aussi à transmettre les informations que chacun on peut avoir à notre connaissance dans des cas pareils.
Et on voulait aussi revenir sur, sur une évasion, pour une fois une bonne nouvelle, qui s'est passée donc récemment à la maison d'arrêt de Séquedin, donc c'est vers Lille. Donc on a appris qu'un détenu, donc Redouane Faïd, s'est fait la malle à l'explosif de manière assez, assez ambitieuse et assez spectaculaire. Et que voilà, donc il a commencé sa vie de cavale. On espère qu'il a bien commencé, enfin qu'il est en tout cas dans les conditions où il peut au moins atterrir un peu à l'extérieur avec les moyens logistiques qu'il faut. Donc c'est une personne qui a déjà fait de la cavale et notamment... qui a écrit un livre aussi qui s'appelle Braqueur des cités au grand banditisme. Donc je crois que le livre il est sorti en 2010. Et notamment aussi, juste pour revenir sur son parcours, en 2010 également, il a fait une interview où il parlait de la cavale. Du coup, c'est juste pour dire qu'en fait, la cavale, c'est pas tout rose et que. Et qu'évidemment, il est sorti, on est content pour lui, mais qu'on sait très bien que là, ce qu'il vit maintenant, c'est. C'est vraiment pas simple d'être traqué par toutes les polices d'Europe. Donc en 2010, il disait déjà « En cavale, je vivais tout le temps avec la mort, la peur de la police, la peur de me faire descendre. Je m'inventais des codes et des règles. Je rentrais chez moi à partir de 16h pour ne pas me faire contrôler le soir. C'était un enfer, je ne voyais plus ma famille. C'est dur. Ce sont des choses qui font réfléchir. » Et que oui, il est en cavale, on est heureux qu'il soit sorti de prison et on espère que sa cavale... Elle se passe bien et on lui souhaite bon vent et puis qu'il court le plus longtemps possible.
Et juste pour dire que du coup, son évasion, ça s'est passé samedi dernier, je crois. Et du coup, c'était en même temps qu'il y avait le procès à Lyon pour du coup, les deux évasions dont on vient de parler. Et selon quasiment le même mode opératoire, quoi, que c'était pendant un parloir, il avait des explosifs, il a fait exploser toutes les portes qu'il séparait de la rue. Et puis il s'est barré comme ça, il y avait une voiture qui l'attendait sur le parking. Du coup, ça fait quand même un joli pied de nez à l'administration pénitentiaire qu'en fait, ils ont beau faire des prisons aussi modernes et aussi sécurisées qu'ils veulent. Il y aura toujours des gens qui essaieront de s'en ressortir et heureusement qu'il y a même des gens qui arrivent.
Et moi, je voulais rajouter un petit truc aussi pour une autre forme d'évasion. Donc, c'est une nouvelle qui était dans le journal. C'est quelque chose qui s'est passé assez récemment donc, au centre de détention de Rouen. Un prisonnier qui avait obtenu une permission pour participer avec d'autres prisonniers à un marathon n'est pas rentré et a réussi à se faire la malle. Alors du coup, c'est chouette. On lui souhaite bonne chance.
Ah putain de vide au fond du crâne, putain de malaise persistant, putain de vie comme une tort. On dirait sur un plateau, va me voir pendu au barreau de nos cellules. Au fioc d'enfermer, serrer les dents, dans la même merde. Version à 34 heures, et sinon plus rien ne change. Ils veulent nous calmer, ça va être dur. On va pas se plaindre, on a plus le temps. Nique la tôle et tous les enfermements, la paralysie, la crainte. Les tentatives avortées qu'on garde au fond du crâne. Là pour les miens, y'attend rien en retour. Parfois on se trompe, on se rattrape comme on peut. Fais le compte des trucs importants, histoire de pas lâcher l'affaire. Mets un genou à terre, une dédicace signée, esclaire toi tu l'entends. Cours pas après le bonheur, une fuite perdue d'avance. J'en laisse tant que désir de confort. La rage au ventre, des bleus pleins les viscères. Souvent seuls et les poings fermés. Leurs gardes sombres et les pupilles incandescentes. Mets toujours une pensée aux proches, même si du mal à le dire. C'est pas des sourires qu'on partage, mais de la vénère à des combats. Faire taire les envies de fuite et pas se perdre. Juge-moi, tu finiras à terre, puisqu'un avertissement considère ça comme une menace.
On fait notre chemin sans jouer au grand, les casiers, on n'a pas rien de comprendre.
Rêve de carnage, de casse, de fuite en souterrain. Assure tes arrières, que pas de briser les reins. Du petit dealer qui a vu que les chromos, gros gangsters qu'il fait briller. Des chances de finir en cage ou estropié. Je me fous des gros billets, juste quoi éviter le taf. Gardez ma rancœur, connasse.
Quand la rage ne se fait rien à gagner, ta mère tu m'as fendre.
Toujours fidèle à ceux et à celles qui sont du même côté. Qui se servent sans se gêner. Des squatteurs, des jeunes rageux qui supportent mal l'autorité. Ceux qui fuient les gens phares, qui se mettent la tête chaque soir pour arrêter de penser.
Des gens sincères qui fuient autre chose que du vide.
Ceux qui se méfient, qui se font taise, observent. APA, putain de vide au fond du crâne.
C'est comme moi frérot, drôle de combat, la vie qu'on mène. Drôle d'animaux qu'on prétend être, sur un 2, profil basse, là je joue pas phénomène. Bien sûr que je flippe comme un carcère, on me cartonne, ouvert-toi où se retrouve la gueule à terre. Surtout pas se faire serrer, donc on fait le tri. Silencieux, peut-être trop souvent, on dit pas de ceux qui déblatèrent. Préfère ce qui brûle à ce qui brise, prends voix, pareil que c'est hybride. Comme notre son grave et crasse, pas succès trop fric. La trouille de tourner dingue, à force de le faire en 11, qui fait de 16, sert à rien, c'est comme brailler sur l'autoroute. Mato tourneau, leur monde brouille sous les parures. La terre en désinterne, les familles au parloir. Même si les procureurs on est serré. Un coup du sort, on y atterrit, ils sont austérés. Peut pas faire si pas le voir. On s'en tire avec ce qu'on a sous la semelle. Ils sont mis à les berner. Mais pas d'histoire, c'est qui que ça plane. Qu'est-ce qu'on dort une semaine. En sort si on le sait, t'inquiète. Pas à plaindre, même quand c'est dur. À ceux, celles qui y sont, on serre les dents. Hardcore, ce qu'on leur souhaite. La loi, ce qu'il applique, leur putain de procédure. Et cette fierté de pudeur, tant qu'on déteste, si peu qu'on aime, même pas foutu de leur dire. On tue, on endure ce putain de quotidien. Qu'on le même trou dans le bide, bientôt dans le crâne, Arthur, c'est pas terrible.
Ouais, alors on voulait donner deux, trois petites nouvelles, et notamment des nouvelles belges. Donc en fait, en Belgique, il y a en ce moment la mise en place d'une nouvelle prison. Donc ça devrait se passer à Arran, c'est au nord de Bruxelles. Donc ce serait cette tôle, ça serait la plus grande prison qui a jamais été construite en Belgique et qui devrait enfermer 1200 personnes. C'est même prévu qu'il y ait un tribunal à l'intérieur pour plus qu'il y ait à faire des transferts pour juger les prisonniers. Il y a des oppositions à la construction de cette prison. Il y a notamment un tract qui est sorti qui en parle plus précisément et qui a été distribué à des milliers d'exemplaires là-bas en Belgique. Et il y a eu aussi récemment un rassemblement avec des banderoles et une manifestation sauvage dans le quartier de Saint-Gilles où il y a aussi une prison qui est là-bas. Il y a un court-métrage qui est sorti qui parle de la construction, du projet de construction de cette prison et des rébellions et des révoltes qui s'y opposent. C'est possible d'avoir plus d'infos et notamment de voir ce court-métrage sur internet en allant sur le site www.lacavale.be. Voilà, pour avoir un peu plus d'infos.
Et pendant qu'on parle de court-métrage et de lutte contre les prisons, on en profite pour dire qu'il y a un autre court-métrage qui est sorti et qui est un détournement de film de Kung-Fu et qui parle en fait de ce qui se passe au centre de détention de Roanne, dont on a déjà eu l'occasion de parler dans cette émission. Du coup, c'est possible de regarder la vidéo sur Dailymotion et de taper « Tension en détention » et on tombe dessus. Et pour avoir plus d'infos sur ce qui se passe et ce qui s'est passé au centre de détention de Roanne, il y a un blog qui existe aussi et qui revient sur tout ça. Et du coup, l'adresse du blog, c'est http://lutte-au-centre-de-détention-de-Roanne. Du coup, avec chaque mot séparé par un petit tiré. Donc, lutte-au-centre-de-détention-de-Roanne.overblog.com.
Et sur les infos internationales, donc on aimerait venir sur une nouvelle de Turin. Donc on a appris que trois personnes viennent d'être arrêtées à Turin la semaine dernière lors d'une manifestation devant un centre de rétention et qu'une des personnes a été tabassée avant d'être emmenée en prison et que normalement la mise en détention elle devrait être réexaminée cette semaine, mais on n'a pas plus de nouvelles pour l'instant et que leurs contacts sont disponibles sur le blog. Et voilà, on leur souhaite bon courage et de la force et de la détermination pour survivre à ça.
Alors ça va être bientôt la fin de l'émission, juste avant de vous quitter on voulait vous donner deux informations. Donc la première c'est que bientôt ça va être du son contre la prison, donc le 4 mai, du son contre la prison, on en a déjà parlé, c'est un concert de rap qui est diffusé en direct à la radio et notamment sur cette radio de 21h à minuit pour pouvoir être écouté à l'intérieur de la prison. On passera un petit jingle pour clôturer l'émission. Et l'autre info, c'est que à partir de, bah, de maintenant, vous pouvez passer à la BAF. Donc la BAF, c'est un centre social autogéré de Chemin des Alpins à Grenoble où il y a une expo sur la vie de Marco Kamenich. Donc Marco Kamenich, c'est une personne qui est incarcérée depuis des années et des années en Suisse pour des faits de sabotage contre l'industrie nucléaire et qui a vécu pendant 10 ans en cavale aussi quand il s'était évadé et qui a donc été réincarcéré depuis un moment et que visiblement l'État suisse n'a pas du tout envie qu'il sorte. Et voilà, du coup il y a une expo sur un peu sa vie à la BAF que vous pouvez aller voir.
On va terminer en donnant quelques petites infos. C'est possible de réécouter cette émission et d'écouter aussi les émissions précédentes sur le blog Des Murs ont des oreilles. Donc l'adresse internet, c'est lesmursontdesoreilles.noblogs.org. Vous pouvez nous contacter, surtout, n'hésitez vraiment pas à le faire. Vous pouvez nous contacter par mail en nous écrivant à lesmurs, donc lesmurs@riseup.net, riseup.net. Vous pouvez aussi nous écrire par courrier. Les Murs ont des oreilles sur Radio Kaléidoscope, boîte postale 422, 38 018, Grenoble CEDEX. Voilà, on vous quitte et on vous retrouve le mois prochain en vous souhaitant courage, force, détermination. Salut.
Salut. Salut, ça va ?
Ouais, ça va, et toi ?
Ouais, ça va, tranquille.
Vas-y, tu fais quoi le 4 mai ?
Je sais pas, il y a un truc.
Il y a un concert, ça a l'air trop chambé, à Saint-Etienne, concert de rap.
Ah ouais, ok. Et c'est qui joue ?
C'est Les Évadés, Saint-Déru et Première Ligne.
Mais j'en avais entendu parler de ce truc. C'est genre rap conscient, rap militant, quoi. Et après, c'est genre pas un truc, c'est rediffusé sur des radios, tout ça ?
Ouais, c'est diffusé en direct sur plein de radios de France, dont celle-là, de 21h à minuit, pour que ça puisse être entendu dans les prisons, puisque c'est un concert contre la tôle.
Classe. Et du coup, c'est où ? Et c'est quelle date ?
C'est le 4 mai à Saint-Étienne, à Ursa Mineure.
Ok.
Vas-y, on y va.
Ouais, vas-y.